Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.
On écrit pour remonter la pente, on écrit pour traverser le col, pour passer le seuil, franchir la frontière. On écrit pour trouer sa brèche, se frayer un passage, creuser son défilé, trouver sa résurgence. On écrit pour remonter le fleuve, non pas dans le but de trouver la source ou de revenir à l'origine, mais dans le but d'éviter la mer de l'indifférence ou du désespoir. On écrit, on dessine, comme on rame, à contre-courant. Contre l'avolo du langage quotidien, de la langue malmenée, de la langue utilisée, préfabriquée, de la langue des producteurs, de la langue qui vend et qui achète, de la langue pouvoir d'achat.
Bonjour Emmanuel Ruben.
Bonjour.
Merci d'être venu rencontrer le public de la librairie Majolire et puis les auditeurs de Couleur FM. Vous venez de nous lire un extrait de votre, j'allais dire votre dernier, mais non, c'est pas votre dernier, c'est votre avant-dernier ouvrage, Dans les ruines de la carte. J'en profite pour saluer votre éditrice, Le Vampire Actif. Je m'autorise à la féliciter d'avoir publié un tel texte. C'est un texte magnifique. Seuil n'aurait pas eu honte à le publier, donc bravo, merci. Qui êtes-vous? J'ai envie de dire Emmanuel Ruben, parce que quand on parcourt un petit peu ce que vous écrivez, quand on sait deux ou trois choses en plus, vous écrivez des romans, vous écrivez des essais, vous êtes ou avez été professeur, vous bourlinguez beaucoup, peut-être un peu moins vers l'Afrique, vous revenez d'Israël. Les cartes du Moyen-Âge n'ont pas de secret pour vous. On a l'impression que vous avez tout lu, peut-être pas, mais lu beaucoup, énormément. Votre œuvre est servie, votre réflexion plutôt est servie par une écriture brillante, passionnée. Première question, à la base de tout ça, est-ce qu'il y a une passion pour les mots?
Passion pour les mots, oui, oui, évidemment. Mais pas seulement pour les mots, je dirais. Quand je ne connaissais pas le nouvel emplacement de la librairie Majolire, mais je me souviens de la librairie quand elle était dans la rue piétonne, et j'expliquais justement que quand j'étais petit, je me souvenais de passer des heures à lire l'intégrale des Tuniques bleues, quelque part assis dans un couloir dans le coin BD. Passion des mots et des images, et volonté de faire en sorte que le mot fasse image.
Oui, d'ailleurs, il y a un sous-titre à ce livre, hein, Peinture, littérature et géographie de l'âge classique à l'ère numérique.
Sous-titre un peu... je suis pas sûr, un peu ambitieux. Je suis pas sûr qu'on remplit que je suis arrivé à remplir toute la promesse de ce sous-titre. Bon, en tout cas, il fallait quand même un peu expliciter ce titre qui peut paraître un peu sibyllin. Dans les ruines de la carte étant tiré d'un passage, hein, de Borges, lorsque Borges imagine cette carte à l'échelle 1-1, un collège de cartographes qui a inventé cette carte qui dupliquerait en fait complètement le monde dans lequel on est. À la fin, cette carte finalement qui ne fait que vouloir dupliquer le réel et comment dire éparpillée. Devient des ruines, elle est éparpillée dans le désert, et il dit que les gens finissent par habiter les ruines de la carte. Et donc voilà, j'ai emprunté ce titre à Borges.
Alors vous avez proposé une lecture d'un tableau, un tableau de Vermeer, 17e siècle. Dans ce tableau, il y a une carte, donc le propos n'est pas étranger à votre livre, et vous dites que Vermeer introduit une rupture dans l'histoire de la peinture, dans le sens qu'il se préoccupe davantage de l'espace intérieur Hein, plutôt que d'ouvrir la fenêtre comme le faisait par exemple Ruiz Dael et de s'intéresser au paysage, la toile l'introduit comme la peinture de Vermeer introduit comme une espèce de connaissance. Hein. Vous parlez de géographie intime, d'espace du quotidien, de carte du tendre.
Oui, alors en fait, dans les œuvres de la Renaissance, très souvent, je pense comme ça à un Ghirlandaio qui est au Louvre, c'est un vieillard avec son petit-fils, un vieillard qui est, on connaît ce tableau parce que le vieillard est très laid, il a un nez avec plein de verrues et il tient son petit-fils, et à l'arrière on voit, il y a une fenêtre qui s'ouvre vers le paysage, et donc là on est au 15e siècle, et au 15e siècle, quand il y a une scène d'intérieur, très souvent derrière il y a un paysage qui s'ouvre. C'est très très fréquent ce genre de procédé, de dispositif. Et en fait, quand Vermeer arrive dans la peinture, à ce moment-là, déjà, le paysage hollandais s'est développé comme un art à part entière, autonome, où il n'y a plus que des paysages. Quelqu'un comme Ruiz Dael, par exemple, ne peint des paysages intégraux. Il n'y a que le paysage, et des fois même les figures s'absentent. Par exemple, chez Poussin, il y a encore les figures, et puis dans le paysage hollandais, les figures disparaissent. Vermeer, on le sait, est l'auteur de deux paysages qui sont connus, qui sont la vue de Delft, très connue, et La Ruelle. Mais en dehors de ces deux œuvres, il n'a jamais peint de paysage. Donc ces deux œuvres sont un peu des intrus magnifiques dans l'œuvre de Vermeer, mais sinon toutes ses œuvres, et c'est une petite production hein, puisque Vermeer est un peintre qui peignait peu, il a toutes les autres toiles sont des intérieurs, et dans ces intérieurs il y a très fréquemment une carte dans le fond. Et alors pourquoi il faisait ça? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en fait, les riches bourgeois hollandais aimaient posséder des cartes de géographie, des cartes de toutes sortes, de tous les temps. C'était un objet qu'on aimait montrer au même titre qu'un tableau. Et il y a une autre raison, c'est que quand Vermeer arrive donc en tant que peintre sur la scène hollandaise, il y a une sorte de dissociation qui s'est opérée entre la cartographie comme un art et la cartographie comme une science. Je crois qu'il y a chez Vermeer une sorte de nostalgie du temps où le peintre pouvait être aussi un cartographe, comme Léonard de Vinci, qui a été cartographe pour les Médicis à Florence ou pour le duc de Milan, qui a réalisé des très très belles cartes. En fait, Vermeer ne peut pas faire ça. Il y a des cartographes hollandais qui ne font que ça, et lui ne peut pas le faire. Et les guildes ont retrouvé les peintres et les cartographes ensemble dans une même guilde, et en fait, à ce moment-là, ça se sépare en guildes différentes en Hollande.
Alors, le tableau dont vous nous proposez l'étude, qui s'appelle L'art de la peinture, il représente précisément un peintre au travail. Et vous dites énormément de choses. C'est d'ailleurs surprenant qu'on puisse dire autant de choses d'un tableau, mais c'est très intéressant en même temps. Et dans ce que vous dites, vous faites remarquer qu'on ne voit pas le regard du peintre, mais qu'on voit son pinceau. Et ce qui est intéressant avec son pinceau, dites-vous, hein, c'est qu'il est comme en suspens, comme s'il se rendait compte de l'immensité de la tâche à accomplir.
Oui, alors le peintre est de dos. On ne voit pas du tout son visage. Ses cheveux apparaissent sous son béret. Ils sont un petit peu floutés. Et en effet, on ne voit que le pinceau et l'appui-main. En fait, il est en train de peindre la scène, celle qu'il a devant lui, qui est une personne qui pose, une jeune fille qui pose, qui représente probablement Clio, la muse de l'histoire, puisqu'elle porte sous son bras un énorme volume jaune qui a été identifié comme un volume de Thucydide, l'auteur de l'histoire de la guerre du Péloponnèse, qui est considéré comme l'un des premiers historiens. Et dans l'autre main, elle porte une trompette. Et sur la tête, elle a une couronne de laurier. Et en fait, il est en train de commencer par la couronne de laurier. Il a commencé par dessiner quelques feuilles de la couronne de laurier. Et en observant ce tableau, vraiment, je me suis rendu compte que la couronne de laurier que Vermeer est en train de dessiner n'est pas exactement la même que la couronne de laurier qu'il y a sur la tête du modèle. Et c'est à partir de là que j'ai mis plusieurs hypothèses. Est-ce que la couronne de laurier qu'il est en train de réaliser, c'est comme il la voit lui et pas comme nous la voyons nous? Donc il y a C'est pour nous montrer en fait la différence de perspective entre lui qui n'est pas placé au même endroit que le spectateur quand le spectateur regarde. Est-ce que c'est parce qu'en fait, c'est notamment la couleur qui n'est pas la même? Est-ce que ça vient de la manière dont Vermeer faisait apparaître le vert? On sait que le vert est une couleur très difficile à obtenir pour les peintres puisqu'il n'y a pas de vert naturel. Et en fait, alors soit il y avait des peintres qui broyaient plusieurs pigments pour avoir du vert, on pense que Vermeer procédait d'une autre manière qui est par couches successives, c'est-à-dire de bleu et de jaune, pour obtenir au bout d'un moment un vert du bleu, du jaune, du bleu, du jaune. Il y a peut-être ça c'est une deuxième hypothèse, et puis en fait j'ai une troisième hypothèse, mais qui est une hypothèse personnelle, qui est qu'en fait, Vermeer est en train de nous montrer que on ne peut pas dupliquer. Alors j'utilise un peu je me ferais peut-être taper sur les doigts par des historiens de la peinture qui me diraient c'est pas du tout comme ça, mais moi j'utilise le tableau pour un propos, de même que faisait Foucault dans Les mots et les choses quand il utilise le tableau de Velázquez. Les historiens ne se sont pas privés et lui ont tapé sur les doigts en lui disant mais vous racontez n'importe quoi. C'est une hypothèse et je voulais l'utiliser pour mon propos qui était de dire bon ben voilà, on ne peut pas, que ce soit un peintre, que ce soit un écrivain, croire qu'on peut reproduire le réel comme l'ont clamé certains, ça n'est pas possible.
Je reviens sur cette carte parce que vous faites un rapprochement hardi. Il y a la carte des Pays-Bas tels qu'ils étaient au XVIe siècle. Puis cette carte, elle est entourée à gauche et à droite. Moi, j'ose pas employer le mot de vignette. Vous dites vedute.
Oui, monsieur.
Et vous dites, c'est finalement assez analogue à ce qu'on voit dans les supermarchés, les grandes surfaces, avec les écrans numériques où il y aurait une vingtaine de chaînes là, sur lesquelles il suffirait de cliquer pour en avoir... Une.
Non, en fait, j'essaye de transposer, je me dis, et si un peintre, si aujourd'hui, alors je ne prends pas un peintre, je prends quelqu'un qui ferait des installations, puisque l'art contemporain aujourd'hui, la notoriété de l'art contemporain repose essentiellement sur les installations, même s'il y a encore des gens qui continuent à peindre, heureusement, je me disais, imaginons quelqu'un qui fait une installation aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait? S'il voulait représenter ça, ce rapport entre l'histoire et la géographie qui est derrière, qu'est-ce qu'il ferait? Et je me dis, il pourrait présenter, par exemple, la carte du monde au moment donc ça serait un écran de la carte du monde qui tourne, comme on le voit par exemple au moment du JT, et autour des vignettes. Alors, pour Vermeer, ce sont les grandes villes hollandaises, des dix provinces hollandaises. Et je me disais, ça pourrait être les grandes villes dans lesquelles il se passe. Par exemple, je pensais ce matin à la télé, c'était dans une émission, Moscou, Jérusalem, il devait y avoir Rome et Madrid, par exemple. Ça pourrait être, et on pourrait ajouter comme ça pour en avoir 10.
Le Gréco, le tableau que vous commentez, vue et plan de Tolède. Alors moi, le Gréco, pour moi, c'était un peintre singulier, mais c'était que ça, entre guillemets. En lisant ce que vous dites du tableau, on est absolument stupéfait. Du coup, le regard est complètement modifié. Hein, vous dites que c'est quelqu'un qui propose une vision presque géographique de la ville de Tolède, c'est-à-dire qu'il y a une vue d'en haut, il y a une vue d'en bas, il y a une vue aérienne, une vue du nord.
C'est un tableau très particulier. C'est un tableau vraiment extrêmement particulier, qui est très grand, donc qui fait plus de 2 mètres de large. Et donc dans ce tableau qui s'appelle « Vue et plan de Tolède », le Gréco a représenté Tolède, ça il l'a fait dans d'autres tableaux, mais là il ne se contente pas de peindre la ville de Tolède qui occupe tout l'espace du tableau en arrière-plan. Il représente un page, probablement sous les traits de son fils, qui propose un plan et qui montre le plan comme ça au premier plan. Et c'est le plan... c'est le plan de Tolède sur une feuille qui d'ailleurs la toile imite très bien cet aspect un peu de la feuille de parchemin, un peu comme chez Vermeer, sauf que là il y a une grande différence parce que chez Vermeer c'est en arrière-plan, la carte est en arrière-plan, alors que chez le Gréco elle est au premier plan. Et en fait, entre les deux peintres, il y a environ 50 ans, il y a 50 ans d'écart, puisque le Gréco, ce tableau date du tout début du XVIIe, et Vermeer, on est au milieu du XVIIe. Et je crois qu'entre les deux, il y a une différence assez fondamentale, qui est que le Gréco peut proposer comme ça une sorte d'analogie entre la carte et le territoire qui est derrière, alors que chez Vermeer, c'est fini. Il n'y a plus que la carte, puisque le territoire, il n'est pas là. On est dans une scène d'intérieur et il montre un peintre qui est en train de
de ne pas justement dupliquer le réel. Donc on est vraiment, on n'est plus dans le même procédé.
Sur Couleur FM, une composition d'Arve Henriksson, Ascent. C'est un trompettiste norvégien influencé par la musique électronique.
Est-ce que vous m'autorisez à dire que dans les ruines de la carte, vous affirmez une espèce de... Oui, vous dites, hein, votre envie, votre volonté de comprendre le monde. Vous êtes géographe de formation, on a l'impression que l'histoire n'est pas très loin, parfois un petit peu la sociologie. La manière dont vous réfléchissez fait quand même étrangement penser par moments à la philosophie.
Alors, comprendre le monde, ce serait un peu trop ambitieux. Je crois que c'est me comprendre moi d'abord avant de comprendre le monde, parce que c'est quand même plus un art poétique et une volonté d'essayer d'expliquer ce que j'ai essayé de faire jusque-là
et ce que je vais continuer à faire sans le dire tel quel, mais vraiment, je pense qu'on comprend que c'est un livre qui permet un peu d'expliquer quelle était l'ambition que je pouvais avoir dans La Ligne des Glaces, ou même déjà dans Alta y Alta, qui était mon premier roman, et que je poursuis avec Jérusalem terrestre. Donc c'est plus comprendre quel est essayer de plonger de façon théorique dans le regard que je peux me permettre d'avoir avec ce qui est mon background scientifique et avec ce qui est mon expérience en tant qu'écrivain.
Pour autant, à travers ce cheminement, on a l'impression que vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir vers des passions enfantines. La lecture, l'art, et puis les cartes.
Bon, parce que tout commence avec l'enfance, non ?
Je sais pas. Moi, je me contente de
vous
lire.
Je crois que c'était Borges qui disait que, finalement, qu'est-ce qu'un écrivain peut avoir à proposer d'autre que le regard sur l'enfant qu'il a été, finalement.
Est-ce que c'est important de mettre des mots sur l'art ?
Justement, avec Ice Color, il y avait déjà cette tentative. Puisque c'est un livre Ice Color sur l'œuvre d'un peintre danois qui s'appelle Per Kirkeby. Et ce que j'ai voulu faire en écrivant Ice Color, c'était parler de l'art autrement qu'en parlent les historiens de l'art. Puisque moi, je pratique un petit peu le dessin et la peinture. J'ai fait quelques expositions à Saint-Étienne, à Saint-Florent-le-Vieil, à la maison Julien Gracq, et puis ça va se poursuivre prochainement à Paris. Et donc j'ai une pratique en fait du dessin, de l'aquarelle essentiellement. C'est vrai que je connais très peu la peinture à l'huile ou l'acrylique. Et je voulais en fait, quand j'ai écrit ce livre sur Per Kirkeby, je voulais simplement voir les choses en tant que dessinateur et en tant qu'aquarelliste sans rentrer dans un propos sur la vie, l'œuvre et en fait un jour j'écoutais une émission sur France Culture je crois et j'entendais une historienne de l'art qui s'appelle Lichtenstein, je me souviens plus son prénom et son nom de famille c'est Lichtenstein, qui disait que alors qu'elle était historienne de l'art, un jour, elle est allée prendre des cours de peinture aux ateliers, donc à Paris, il y a ce qui s'appelle les ateliers beaux-arts de la ville de Paris, où on paye, mais des sommes qui sont tout à fait abordables, pour pouvoir pratiquer le dessin, la peinture, et il y a d'autres arts. Et elle disait qu'elle avait pris une énorme claque, en fait, quand elle est arrivée, et qu'elle... Tout d'un coup, elle se rendait compte déjà de la difficulté de peindre et de se dessiner. Et aussi, elle se rendait compte que le regard, la façon de parler de l'art n'était pas du tout la même chez ces personnes qui apprenaient. Alors, c'est très intéressant parce que moi, j'ai fait moi-même ces ateliers. C'est là que j'ai appris à dessiner, enfin que j'ai retrouvé le dessin que je pratiquais quand j'étais enfant. Elle disait, je me suis rendu compte que tout mon discours d'historienne de l'art, il était biaisé en fait. Je ne faisais qu'approcher les choses, j'en en parlais pas franchement, je ne comprenais pas très bien tant qu'on n'a pas pratiqué, je sais pas, le fusain ou la gouache. En fait, on ne sait pas ce que c'est. On peut en parler en tant qu'historien de l'art, ça ne marche pas. Moi, j'avais été frappé une fois par une exposition au Grand Palais quand même, où il y avait des erreurs de la part des historiens qui avaient fait les cartouches. Il y avait des erreurs dans les instruments qui avaient été utilisés. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait quelque chose qui était omis, ou il y avait quelque chose d'approchant. Il y avait marqué fusain, c'était pas du fusain, c'était de la craie noire, quelque chose comme ça. Et quelqu'un qui a pratiqué un petit peu le dessin le voit tout de suite, sans avoir d'études. Et elle a fait tout un livre là-dessus. Alors moi, à l'époque, j'avais déjà écrit Ice Color et je trouvais ça intéressant que une historienne de l'art reconnaisse qu'un historien de l'art, souvent, enrobe un petit peu quand même son discours sans avoir plongé vraiment dans la pratique.
Dans les ruines de la carte, c'est pas que ça, mais c'est quand même une série de moments qui sont impressionnants, notamment quand vous parlez de Julien Gracq. Moi, je vous avoue, quand j'ai lu ce que vous disiez que je ne connais pas, que je n'ai pas lu, j'avais envie de fermer le bouquin et d'aller acheter le Rivage des Sirtes. Non, mais vous mettez une passion dans votre façon d'évoquer cette lecture. Alors, Julien Gracq.
Bon, Julien Gracq, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, puisqu'en fait, je suis tombé dans la marmite de Julien Gracq quand j'avais 17 ans. J'avais lu le premier livre que j'avais lu, c'était Les eaux étroites, que ma grand-tante, qui était libraire, m'avait offert. Et tout de suite, ça a été électrique. Et je les ai tous lus les uns après les autres. Donc, on m'avait offert la Pléiade. Et donc, un beau jour, j'ai décidé de lui écrire. Il m'a répondu et on a eu une petite correspondance dans les années 2002-2003. Donc, c'était 4 ans avant son décès, puisqu'il est mort en 2007. Et quand j'ai publié mon premier roman, Alta et Alta, j'ai décidé d'écrire un texte sur Julien Gracq qui s'appelle L'Appel des Sirtes. Donc, ce texte avait été écrit en 2010. Et il avait été publié à l'époque sur un site internet qui s'appelle Sens Public. Et en fait, ce texte, c'est un peu la matrice de tout, puisqu'en fait, donc c'est un texte sur la fascination. Alors c'est un texte sur la Russie de Julien Gracq, sur la littérature russe, chose qui est totalement introuvable dans toute la littérature sur Julien Gracq. Il n'y a rien parce que je pense tout simplement ça vient d'un peut-être d'un rapport à la langue. Moi, j'avais appris le russe et je m'étais passionné pour la littérature russe. Et je pense que les spécialistes de Gracq connaissaient pas très bien la littérature russe et la langue russe. Et donc, en fait, je m'étais dit, ben voilà, je vais faire ce texte sur... Comment c'est venu ça? Ça, c'est venu par une carte. Et je le raconte dans le livre. En fait, un jour, je regarde une carte de l'Europe avant de partir pour Varsovie, et de Varsovie je devais rejoindre Kiev, qui était un de mes terrains d'études à l'époque. Et sur cette immense carte de l'Europe, c'était dans la chambre des cartes de l'ENS à Lyon, je vois le mot Sirte qui apparaissait plusieurs fois, écrit S-Y-R-T, autour de la mer Caspienne, entre la mer Caspienne et l'Oural. Je me dis, ça c'est très bizarre quand même, puisque tout le monde, quand on pense rivage des Sirtes, on pense au golfe des Sirtes, en Libye. Alors tout le monde sait que le rivage des Sirtes, on ne peut pas le situer. Mais à ce moment-là, j'ai repensé à un article de Pierre Michon, qui était paru dans le magazine littéraire au moment du décès de Julien Gracq. Et Pierre Michon disait, le rivage des Sirtes, il ne faut pas le chercher en Libye. Il faut chercher du côté de la Crimée. Pourquoi? Parce que Julien Gracq avait commencé une thèse de... Donc il était géographe, il avait commencé une thèse de géomorphologie sur la Crimée, mais il n'a jamais pu se rendre sur son terrain puisqu'il n'a jamais reçu le visa. C'était en 1937 et les autorités soviétiques ne délivraient pas facilement des visas. Et c'est là qu'il a commencé à écrire son premier roman qui est Au château d'Argol. Quand je vois ce mot Sirte, je me dis, oulala, qu'est-ce que c'est ça, c'est bizarre. Et je fais une recherche dans un dictionnaire de géomorphologie, c'est un dictionnaire en espagnol, un dictionnaire de géomorphologie en espagnol. Il y a toutes sortes de choses bizarres dans une école normale supérieure, c'est l'avantage. Et là, je tombe sur la définition Sirte, mot d'origine tatar, ce qui me ramenait en plus à Alta et Alta, parce qu'il y a une histoire de tatar dans Alta et Alta, mot d'origine tatar, et a marqué monticule, contrefort, monticule au sud de l'Oural. Je me dis, c'est fou quand même, parce que cette région de l'Oural, c'est la région qui est décrite par Pushkin dans La fille du capitaine. Et je me souvenais d'une phrase où Julien Gracq disait que ce n'était pas le désert des Tartares de Dino Buzzati qui lui avait servi d'inspiration au rivage des Sirtes, comme beaucoup de gens l'ont dit, parce qu'il ne pouvait pas l'avoir lu à ce moment-là. Il a lu le désert des Tartares, mais à cette époque-là, il avait fini. Le rivage des Sirtes était quasiment fini, et il a dit c'est plutôt La fille du capitaine. Et quand on lit La fille du capitaine de Pushkin, qui est un roman historique à la mode de Walter Scott, c'est vraiment troublant, parce qu'en fait Julien Gracq a repris la trame, comment les personnages apparaissent, comment ils se présentent, comment leur rapport à l'ailleurs, en fait, à cet étranger un peu fantasmé et à l'ennemi. Tout ça, c'est déjà très présent, c'est déjà sous cette forme-là dans La fille du capitaine. Puis après, bon, j'ai découvert que Gracq avait traduit des poèmes de Lermontov et qu'en effet, tout s'est resté jusqu'à la fin de sa vie un très grand lecteur de la littérature russe, mais qui n'a jamais fait le voyage vers la Russie. Il n'est jamais, et même quand il pouvait le faire, en 1991, cet homme qui avait appris le russe, qui a étudié le russe à l'INALCO, qui a rêvé Russie, n'y est jamais allé. Il y a quelque chose de l'ordre de Nabokov qui s'est refusé, mais qui était russe lui-même, qui s'est refusé à retourner, à commencer dans son pays, même quand ça lui a été autorisé. Et donc, je me suis dit, bah voilà, les écrivains voyageurs, ils nous disent qu'il faut aller sur les lieux. Bah, peut-être pas toujours. Ça dépend ce qu'on veut écrire.
Vous évoquez l'idée de frontières dans le livre. Voilà, les frontières qui, au fur et à mesure qu'on s'approche, bah, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas si frontières que ça. Et que peut-être on peut aller au-delà. Et une chose que j'aime beaucoup, c'est que vous proposez ce que l'artiste nous apprenne à franchir la frontière. L'artiste qui est un peu l'écrivain, qui est un peu un contrebandier.
Oui, je pense que l'écrivain doit se faire contrebandier. Mmh. Il doit nous apprendre à franchir les frontières. Je pense que ce que j'explique dans Les Ruines de la Carte, je pense que les frontières sont infinies. Pourquoi ? Ça m'est venu en Israël, quand la première fois j'ai vu le mur de séparation. Je me suis dit, mais ce mur de séparation, ils le finiront jamais, en fait. Ils sont partis là pour le construire, ça sera pour toujours. Ils vont jamais arriver à le finir, parce qu'en fait, il y a une telle... Alors, on sait que dans Jérusalem terrestre, il y a des cartes, hein, d'Israël et des territoires palestiniens. Il y a des cartes où on voit bien le tracé du mur de séparation. Et comme on sait aujourd'hui, ce mur, il est toujours pas fini. Et la ligne verte qui séparait Israël des territoires palestiniens, elle faisait environ 300 km de long. Et ce mur est en train, selon les projections actuelles, ça serait 750. Et il a un tracé très erratique puisqu'il suit les courbes de niveau. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé. Alors, j'avais cette réflexion, ça venait aussi parce que la première fois que je suis allé en Israël, c'était en 2010, à l'invitation d'un ami qui était physicien et qui m'a raconté le théorème de Bolzano-Weierstrass. Et le théorème de Bolzano-Weierstrass, théorème d'un mathématicien qui cherche en permanence à définir ce que c'est qu'un point de partage. Et qui a beaucoup de mal d'ailleurs à le définir, mais bon, qui a formulé un théorème que je ne vais pas vous expliquer ici parce que ça sera un petit peu long et je risque de me perdre un petit peu. Mais en tout cas, on parlait de ça. Et je me suis dit, mais qui est-ce qui a défini tous ces points de partage? Qui est-ce qui a dit et à quelle échelle? En fait, j'ai tout de suite pensé à l'échelle. Je me suis dit, quelle est l'échelle qu'il a utilisée, le type qui a commencé à définir ce tracé, ou les types, s'ils sont plusieurs, quelle est l'échelle qu'il a utilisée? Et en fonction de l'échelle que vous utilisez, vous n'avez pas du tout les mêmes résultats. Et j'ai pensé en fait à ce que disait un mathématicien comme Benoît Mandelbrot, qui est l'inventeur de la théorie des fractales. Et c'est un livre très très abordable que vraiment je vous conseille de lire. C'est un livre magnifique, son livre sur les fractales, dans lequel il explique que si vous êtes par exemple si vous voulez suivre au plus près la côte de la Bretagne, en fait il dit la côte, son théorème à lui, c'est la côte de la Bretagne est infinie. Puisqu'en fait la côte de la Bretagne est tellement indentée, elle est tellement comme ça, des circonvolutions, que en fait selon l'échelle que vous allez utiliser pour la représenter, sa longueur sera différente. Puisqu'en fait ça dépend du pas, de la distance que vous allez utiliser d'un point à un autre. Donc c'est vraiment la question du point de partage. Et il disait, ça dépend en fait aussi à quel point on suit le rebord au plus près. Et en fait, si on est un éléphant ou si on est une fourmi, on ne va pas suivre les choses d'une même manière. Et je trouvais que ça, c'était fabuleux. Et ça m'a ramené à la première carte que j'ai dessinée. Je crois que la première carte que j'ai dessinée quand j'étais enfant, c'était une carte de la Norvège. Parce que j'avais été fasciné par cet aspect. Ce qui était génial, c'est que la Norvège, vous pouviez toujours rajouter une île ou une presqu'île. En fait, on s'en rendait pas compte. Personne s'en serait rendu compte. Et donc, quand j'ai vu ce mur, je me suis dit, c'est un peu ça. Ils le finiront jamais. Et à partir, alors, ça va un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où une frontière est infinie, elle reste franchissable. C'est-à-dire les frontières restent franchissables. Et on sait que le mur de séparation reste franchissable et que quand bien même il pourrait être fini, tout le monde le franchit. Il y a des femmes qui passent des nuits entières à le traverser pour aller travailler en Israël parce qu'elles ne trouvent pas de travail dans les territoires palestiniens. Il y a des ouvriers qui le traversent et avec plus ou moins la complicité des passeurs, et avec une comment dire, l'armée ferme plus ou moins les yeux puisqu'ils savent très bien que ces gens vont chercher du travail et qu'ils en ont besoin.
Dans Au fil des arts, sur 97.1, cartographie, toujours une composition d'Hervé Henriksson qui a été choisie comme pour la première composition par Emmanuel Ruben.
Est-ce que vous seriez un homme de l'ailleurs, travers ses propos sur la frontière, puis quand après avoir lu dans les ruines de la carte, on revient vers la ligne des glaces. Bon, la ligne des glaces, qui s'appelle Samuel, je crois, hein, qui est volontaire international, qui est chargé par l'ambassade à Vilnius de préciser.
À Vilnius, oui.
Non, je sais pas, V. Hein, bon,
quelque part, on ne sait pas très bien où c'est. Mais... c'est bien parce que des fois on me dit Riga. Donc
bah, il y a un V quand même.
Il y a un V.
Donc il est chargé d'établir, enfin, ou de préciser, ou de fixer définitivement les frontières de l'espace maritime du pays. Mmh. C'est amusant comment il procède. C'est-à-dire que, première chose, il va voir la mer, après il va voir une île, il va la visiter, après il entend qu'il y avait un peuple qui vit là depuis quasiment toujours, donc avec son collègue là qui est spécialiste un petit peu en ethnologie, voilà, il se renseigne sur ce peuple, il avance, il va toujours un petit peu plus loin. Est-ce que c'est pas...
Il n'arrive jamais.
Mais est-ce que vous n'êtes pas un petit peu fasciné par cet ailleurs? Il y a toujours un ailleurs.
Oui, mais avec un rapport un peu asymptotique, c'est-à-dire avec l'idée
que... Il faut expliquer ça.
Tout le monde a fait des asymptotes.
L'idée
qu'on se rapproche au plus près de l'ordonnée ou de l'abscisse et qu'on ne l'atteint jamais. Mmh. Et en fait... je crois qu'il y a ça c'est par exemple quelque chose que j'ai beaucoup fait avec la Russie, c'est-à-dire la Russie me fascinait mais je me retrouvais toujours dans des pays qui n'étaient pas là. Maintenant je suis en Serbie, alors grand ami de la Russie, mais je suis toujours pas en Russie parce que je suis pas invité comme Depardieu à séjourner, et puis bon, je pense pas que j'accepterai vu le dirigeant, mais bon voilà, ça c'est une chose, et puis la Russie continue quand même et la langue russe à me fasciner. C'est vrai que je m'en approche toujours par des voies un petit peu détournées, sans vraiment. Et le seul fois où je suis allé en Russie, c'était Saint-Pétersbourg, et ça a été très très court. Donc oui, enfin de l'ailleurs, je dirais. Alors j'ai un ami écrivain, Frédéric Yves Jeannet, qui dit qu'il est un homme, qu'il n'est pas un écrivain voyageur, mais un écrivain voyagé. J'aime beaucoup cette formule. Je trouve qu'il est l'idée que à force de vivre un peu partout, on est forcément influencé par tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, mais que c'est pas pour autant qu'on est un écrivain voyageur. Le voyage n'est jamais le but, en fait. Mmh. Et je ne me fixe jamais des défis, comme peut le faire quelqu'un comme Sylvain Tesson, qui se fixe des défis et qui les remplit en principe.
Vous n'aimez pas trop les bouquins qui racontent, on va dire, pour faire court, le malheur des autres?
Pas trop, non. Non, parce que je trouve ça pathétique. Il n'y a pas de raison d'ajouter du pathos au pathos.
Non.
Le monde est assez pathétique comme ça.
J'aime beaucoup cet extrait. Les livres poussent parmi les livres, et le véritable terreau qui sert à la plante écrivain d'aliment, ce n'est pas tant la vie, le monde, le corps ou le réel, que la littérature elle-même.
Oui,
le livre vient du livre.
Je crois que le livre vient du livre et que les écrivains, mais même les écrivains voyageurs, c'est ça qui est fou, sont des immenses lecteurs. Et on est devenu. Quand on demandait à Julien Gracq pourquoi vous êtes devenu écrivain, il répondait parce qu'il y en a eu d'autres avant moi. Je trouvais que c'était une réponse pas mal. C'est l'idée que voilà, j'ai tellement lu, j'ai tellement baigné dans les livres. Alors j'écris depuis l'âge de 9 ans, donc évidemment que j'ai toujours voulu écrire, mais c'est presque, d'une certaine manière, c'est presque je lis pour écrire. Je lis pour écrire et j'écris pour lire, quoi, d'une certaine manière. C'est ce que je trouve fascinant Alors ça, il y a un risque, évidemment, qui est de rester que entouré de livres et ne jamais voir les choses de ses propres yeux. Bon, comme je voyage beaucoup, il m'arrive quand même d'être confronté à des situations bien tangibles, et notamment là en Serbie. On parlait tout à l'heure de l'immigration. C'est vrai que les réfugiés là en France, bon, j'ai vu qu'on en parlait beaucoup. En Serbie, c'est pas seulement qu'on en a parlé, c'est qu'on les a vus. Ils sont là, ils sont présents tout le temps. Maintenant, ils vivent à Belgrade. Avec les gens vont les aider. Il y a une vraie, une sorte de le peuple serbe ayant tellement, je fais peut-être une digression, ayant tellement le plus grand livre de la littérature serbe, ça s'appelle Migration. Donc c'est un peuple qui a été habitué à vivre avec un rapport comme ça à la migration. Il paraît que même le peuple serbe viendrait de plus ou moins de d'Allemagne, en fait, hein, de l'Allemagne actuelle, est descendu vers le sud, ensuite a toujours essayé de remonter vers le nord, poussé, a été pris entre les deux étaux de l'Empire ottoman et de l'Empire austro-hongrois, a rêvé de partir en Russie. Donc ils ont un rapport à la migration, et ce livre Migration de Milos Tsarnansky, c'est un livre fantastique, quoi. Et je suis habitué. Je trouve que ici, on est un peu un bout. La France est cette espèce de Finistère où finalement, on a un peu oublié ce que c'était que les migrations et que les brassages et les métissages. Et c'est un peu triste, en fait, qu'on ait oublié ça. Par exemple, aussi, les Serbes, ils ont dû accueillir 200 000 personnes au moment des guerres en ex-Yougoslavie, puisqu'il a fallu rapatrier tous les Serbes qui vivaient dans les autres républiques et qui n'étaient plus les bienvenus en Croatie, en Bosnie, partout ailleurs.
On a l'impression, je passe à tout à fait autre chose, on a l'impression que vous n'êtes pas effrayé par ce qui se passe avec le développement fabuleux du numérique et que vous n'êtes pas effrayé, notamment les conséquences que ça peut avoir sur le livre.
Si, enfin, un peu, enfin, il y a des choses, ça dépend, enfin, faut rester assez mesuré là-dessus. Je pense que, je le dis à un moment, j'en parlais récemment à Nantes avec un écrivain russe, comment il s'appelle, Akounine, qui est un grand auteur de best-seller. Il me disait, quand je publie, je pense, j'ai peur en fait que les écrits, enfin, il faudrait pas que les éditeurs en France ratent le coche, mais je crois que pour l'instant, ça reste très marginal en fait le numérique en France. Mais par exemple en Russie où c'est pas du tout marginal et où il y a vraiment une culture du piratage qui s'est énormément développée, Akounine il dit, mon livre en numérique, il faut qu'il coûte le prix de la bière, quoi. C'est-à-dire, il dit, il y a une unité monétaire en Russie, c'est la bière. Donc, si mon livre, il coûte plus cher qu'une bière, personne va l'acheter. Par contre, ensuite, quand il propose, donc il a négocié avec son éditeur pour que quand il propose une édition papier, cette édition soit une belle édition, qu'on ait envie d'acheter, qui soit illustré si possible. Et c'est vrai qu'en France, on a un peu perdu le livre illustré, ça a totalement disparu. Beaucoup d'éditeurs font des économies en fait sur le papier, sur la couverture, sur tout ça. Pour l'instant, je pense qu'ils peuvent se le permettre parce que vraiment le numérique est balbutiant, mais il y a un moment où vraiment il va falloir faire très attention. Et moi, je suis content de que là, on a des livres qui ont une belle facture, qui sont très beaux, sont très bien réalisés là aussi. Et voilà, il faut rester là. Il faut pas, faut faire attention. Et voilà, tant que ça se développe en parallèle et qu'on peut ce qui serait dommage, c'est qu'on n'ait plus que le numérique. Bon, ça serait.
Alors à la fin de ce bouquin, vous avez un épilogue, hein, pour une écriture en archipel. Je vous demanderais peut-être de
lire
un petit peu, mais expliquez-nous ce que c'est que cette écriture en archipel. Vous démarrez peut-être de la lecture de l'archipel du Goulag, mais pas seulement. Et en quoi, quelle est la relation
avec l'archipel du Goulag ou
ce concept d'écriture en archipel.
Alors, ce concept d'écriture en archipel, c'est l'idée que l'écriture doit se libérer. Déjà, je pense que les écrivains doivent se libérer d'un rapport, à la nation. Donc, parce que, par exemple, moi, quand on me demande « Est-ce que vous êtes un écrivain français ?», j'ai tendance à répondre « Je suis un écrivain européen de langue française. » Parce que, voilà, être un écrivain français, Je connais la France puisque j'y ai vécu, j'y vis par intermittence, mais j'ai tellement voyagé dans d'autres pays, et alors principalement en Europe, parce que j'ai envie de connaître cette Europe qui, qu'on le veuille ou non, est quand même... c'est-à-dire l'Europe, soit on détruit tout, soit on refait tout. Il est évident que telle qu'elle est actuellement, ça ne marche pas. Donc il faudra... si on détruit tout, ça va être la catastrophe. Et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être tout refaire. Mais alors sans le détruire, il y a ça, c'est peut-être l'aspect politique. Ensuite, il y a peut-être l'aspect poétique. Une écriture en archipel, c'est une écriture qui ne cherche pas peut-être toujours à suivre son fil, un fil comme ça, narratif bien évident, avec l'idée qu'on peut se permettre des digressions, qu'on peut se permettre des sortes d'îlots de poésie. C'est l'idée aussi d'une écriture qui accepte de brasser tous les genres. Moi, j'ai commencé avec du roman. Alta Alta, c'est un roman, mais dans lequel il y a pas mal de digressions d'ordre géopolitique, essentiellement, et même d'ordre poétique, puisqu'il y a des poèmes. Il y a même un poème de... J'ai traduit dedans j'ai traduit un poème d'Alexandre Bloch, qui est un poète russe. Donc, c'est cette idée qu'il faut absolument brasser tous les genres. Hein, c'était Novalis, je crois, qui disait le roman doit intégrer tous les genres. Et si j'écris là, donc ça c'est un essai dans les ruines de la carte, Jérusalem terrestre c'est un journal de bord, Je veux, et Ice Color, c'est un récit, mais c'est un récit avec des illustrations, et c'est un récit à partir d'images, qui est construit à partir des images. Et donc, j'aimerais qu'aujourd'hui, on a tendance à être un peu catégorisé, je disais tout à l'heure, un tel est romancier, un tel est poète, un tel, et c'est assez triste. Enfin, il y a quand même un temps où les écrivains touchaient un peu à tout. Enfin, était capable de brasser tous les gens, de s'illustrer dans tous les gens, le théâtre, la poésie, quelqu'un comme Julien Gracq a essayé tous les genres.
On va peut-être quand même évoquer votre dernier ouvrage. Juste avant, je voudrais dire que vraiment ce livre est un bouquin absolument passionnant. L'éditrice a bien fait de ne pas mettre en sous-titre quelque chose qui me rebute un peu, essai. Non, c'est bien ce que vous avez mis, très bien. Parce que c'est pas un essai, c'est bien autre chose. C'est un bouquin passion, et vraiment, il faut y aller voir. En plus, il y a une envie de communiquer, c'est pas du tout abscon, bien loin de là. C'est un régal. Alors, Jérusalem Terrestre, c'est encore autre chose que ce livre. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots, puis nous en faire une lecture avant qu'on termine
cette entretien? Est-ce qu'on par une lecture, et puis...
Bien sûr.
On n'oublie pas Jérusalem. On fait le serment de ne pas l'oublier, mais c'est plutôt Jérusalem qui ne vous oublie pas, qui vous hante jour et nuit dès lors que vous y avez mis les pieds. J'aurais préféré oublier Jérusalem, oublier ce que j'avais vu la première fois. Mais pour que ma main droite ne se dessèche pas, pour que ma langue ne se cloue pas à mon palais, il me fallait revenir, en voir davantage, en entendre davantage, et, de retour au pays, il me fallait écrire, décrire ce que j'avais vu, retranscrire ce que j'avais entendu. On dit de la ville la plus célèbre et la plus disputée du monde qu'elle est la seule à exister en deux endroits, sur terre comme au ciel. Enfant, il m'arrivait de demeurer pendant de longues minutes les yeux levés vers la splendide voûte bleu turquoise de la chapelle romane de Saint-Chef. Là, émerveillé par la beauté de ses fresques, j'attendais que la cité sainte, parée de pierres précieuses, couronnée par l'agneau mystique et portée par les anges, veuille bien descendre du ciel. Face à la Jérusalem profane, si tant est qu'elle existe, j'ai très rarement retrouvé de tels moments d'émotion, sinon à l'aube, sur le toit terrasse de la maison d'Abraham, avant qu'une nouvelle journée commence, et que retentisse l'écho des premières détonations, que me parviennent les premières nouvelles. Dès que les premiers rayons du soleil enflammaient le dôme du rocher, j'avais l'impression d'assister à l'opération inverse de celle que j'attendais enfant. Comme si la ville, en s'éveillant, se soulevait vers le ciel, s'arrachait à la terre, échappait aux hommes. Qui parle de Jérusalem ? Qui écrit sur Jérusalem, qui marche dans les rues de Jérusalem, sait qu'il lui faut renoncer à distinguer de façon catégorique la part de fiction mythologique et la part de vérité historique. Impossible, à propos de Jérusalem, de se résoudre à une seule version des faits, impossible de toucher du doigt une réalité qui serait totalement débarrassée de sa gangue de légendes. La dichotomie biblique entre une Jérusalem terrestre et une Jérusalem céleste est à l'origine d'une situation paradoxale et mortifère. En aucun lieu de la terre, l'imaginaire et le réel ne sont à ce point imbriqués que dans les pierres de la ville sainte. En aucun lieu de la terre, l'imagination humaine n'a nourri et envenimé à ce point le réel, et nulle part l'enchaînement des faits n'a bafoué avec une telle violence les promesses de l'imaginaire. Si la ville existe au ciel et sur terre, tout se passe comme si cette double existence avait un prix, et tout indique que les hommes n'ont pas fini de verser ce trop lourd tribut exigé par un dieu jaloux de devoir partager son berceau. La glorification de la Jérusalem céleste s'est toujours faite au détriment des habitants de la Jérusalem terrestre. Leur histoire n'est qu'une longue suite de sièges, d'exils, de carnages, et leur situation actuelle, au regard de cette histoire tragique, pourrait passer pour un moment de répit s'il n'y avait chaque jour des indices qui nous font craindre le pire pour les années à venir.
Vous dites quelques mots de ce bouquin?
Oui.
C'est, je sais pas comment dire, c'est le prélude d'un roman ou c'est ouais. quelque chose vers lequel on va déverser parce qu'il y a trop de...
Alors c'était un livre inattendu, c'est-à-dire que je ne pensais jamais écrire ce livre.
Celui-ci, il s'est écrit sur mon blog. C'est-à-dire que j'ai commencé à tenir un blog il y a quelques années, d'ailleurs avec la parution de mon deuxième roman, qui s'appelle L'araignée givrée. Et quand je suis parti à Jérusalem, dans le but d'écrire un roman, vraiment, puisqu'en fait j'avais été invité par l'Institut français de Jérusalem, et le projet c'était d'écrire un roman, dans le but de faire des repérages. Et j'avais vraiment, l'idée du roman était là, il y avait un synopsis et tout. Je me suis senti très vite complètement débordé par toutes les informations que je pouvais avoir autour de moi, qui pouvaient me tomber dessus, qui me venaient des gens que je rencontrais, des gens fabuleux. Jérusalem, c'est une ville qui est peuplée de gens fabuleux, que ce soit parmi les juifs, les musulmans, les chrétiens. Moi, je vivais avec les chrétiens puisque je vivais dans le couvent des dominicains à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Et je travaillais dans la ville juive puisque je travaillais au centre culturel Romain Gary. Il y a deux centres culturels à Jérusalem, deux centres culturels français, un dans la partie juive et un dans la partie arabe, donc à l'est et un à l'ouest. Et donc je travaillais de l'autre côté de la ligne verte. Je ne sais pas si on peut vraiment aujourd'hui encore parler de ligne verte puisqu'elle n'existe quasiment plus. Aujourd'hui on dirait de l'autre côté du tramway puisque c'est le tramway qui reprend le tracé de la ligne verte. Et j'animais des ateliers d'écriture au lycée français de Jérusalem, qui est un lieu très particulier, parce que le lycée français de Jérusalem, qui se trouve tout en haut de la rue des Prophètes, donc en plein dans Jérusalem ouest, et très proche de Meaché Harim, est en fait un lycée français, mais qui est essentiellement fréquenté, même à 99% quasiment, par des élèves palestiniens qui viennent, qui traversent tous les jours la ligne verte, et qui viennent des fois même de très loin, qui parfois même traversent le mur, pour aller dans ce lycée. Il y a un autre lycée français qui est fréquenté davantage par des élèves juifs que celui-ci, qui est fréquenté essentiellement par des élèves soit musulmans, soit chrétiens. Et ça a été une expérience, c'est exactement ce que je voulais, c'est-à-dire que moi qui étais fasciné par ces frontières, ben je me retrouvais là, sur la frontière, et puis alors carrément, quasiment coupé en deux de toutes parts, dans mon emploi du temps, dans mes préoccupations, dans ce que je ressentais au plus profond. Donc, en fait, voilà, c'est pour ça que le livre, ce livre a commencé à s'écrire comme ça par des articles en fait sur mon blog. Alors j'ai passé mon temps à crapahuter un peu partout dans les territoires occupés et puis en Israël, et j'ai proposé une première fois donc ces textes à une revue littéraire en ligne qui s'appelle Remu.net, qui les a publiés. Donc ils ont fait l'objet d'une première réécriture à cette occasion-là, et puis ensuite, comme les gens lisaient pas mal ce blog et lisaient pas mal aussi ce qui était sur cette revue en ligne, on m'a conseillé d'en faire un livre. Et donc j'ai contacté un éditeur qui a tout de suite été intéressé chez Inculte, et donc il m'a dit oui, bien sûr, on va faire ce livre. Le roman, il, par ailleurs, continue à s'écrire. Le but était vraiment, voilà, de presser l'éponge et de dire, voilà, tout ça, c'est au moins ce qui ne sera pas dans le roman, puisque je ne crois pas qu'un roman doit être à thèse. Et là, alors, je ne sais pas si là, il y a une thèse, mais en tout cas, il y a parfois des prises de position, des moments de colère ou d'indignation, des moments de tristesse. Et tout ça, je voulais que ce soit présent dans ce livre et pas dans un roman.
Merci Emmanuel Ruben.
Merci à vous.
Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin. Thank you.